Si la paix de notre Seigneur soit avec vous, je vais bien sûr souhaiter bonne fête à tous les moments, mais j'aimerais m'adresser aux enfants et puis aux ados qui parfois sont un peu durs avec leur mère. Donc les mamans ne sont, pas des femmes parfaites, les papas non plus, mais on verra ça lors de la fête des pères. Mais c'est votre maman, vous avez la chance d'en avoir une. Ma mienne est morte en mai 1986, donc je n'en ai plus. Donc profitez-en. D'accord. C'est un privilège que le Seigneur vous donne. Sachez en profiter. Bien, j'aimerais vous parler de l'inquiétude. Et le titre de mon message, ça va être l'inquiétude, comment gérer l'inquiétude bibliquement. S'il y a quelque chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on s'est tous inquiétés au moins une fois. Et bien souvent, on se dit, mais en tant que chrétien, je ne devrais pas m'inquiéter. Alors, ça peut être des inquiétudes physiques, parce qu'on n'est pas en bonne santé, ou parce qu'on a peur de ne pas l'être. Avec le travail, avec sa famille, avec tout un tas de choses, avec le monde qui nous entoure. Mais à chaque fois, on se dit, mais si j'avais vraiment la foi, je ne devrais pas m'inquiéter. Alors, toute inquiétude est mauvaise à partir du moment où elle rend votre témoignage mauvais. Si les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui savent que vous êtes chrétien voient quelqu'un avec une mine déconfite, triste, qui n'a pas goût à la vie, qui n'a pas de joie dans son cœur et qui s'inquiète, on peut légitimement se poser la question, mais alors qu'est-ce qui te différencie des autres ? À quoi bon être chrétien si tu es aussi triste que les autres et si tu ne montres pas d'espérance ? Alors, je vais vous proposer deux parties. D'abord, quelques pistes bibliques dans l'Ancien Testament et finir par l'exemple d'un apôtre qui était un peu un inquiet, et c'est l'apôtre Pierre. Alors, je vous invite, pour commencer, à ouvrir vos Bibles au Deutéronome 31, au verset 6. Deutéronome 31, au verset 6. Donc, il se lit les dernières paroles de Moïse, qui sait donc qu'il est à la fin de sa vie, il a quand même 120 ans. Et première piste, il faut d'abord avoir du courage, un certain courage. Donc, 31... Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors, remarquez que le passage commence par, il s'adresse au peuple d'Israël, mais ça nous concerne aussi, puisque les Galates disent clairement que nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi. Donc ça nous concerne aussi. Il commence par s'adresser au peuple dans son ensemble. Fortifiez-vous, ne craignez point. Et remarquez qu'il dit les choses deux fois. Alors dans la poésie biblique, c'est-à-dire hébreu, ça ne fonctionne pas comme la poésie moderne. Ils ont tendance à répéter les choses pour faire un parallèle. On dit les choses une première fois, on les redit une deuxième fois de façon un petit peu différente. Alors c'est l'un des principes de la pédagogie. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui répète. Mais si on n'a pas compris une première fois, si on répète de la même façon, on ne va pas comprendre mieux. Donc répéter d'une façon un petit peu différente, ça fait partie de la poésie et donc de la pédagogie moderne aussi. Donc, il nous enjoint en premier lieu à se fortifier, à avoir du courage. Alors, on ne se fortifie pas tout seul. Se fortifier dans le Seigneur, avoir du courage. Le courageux n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. La différence entre le courageux et le lâche, c'est que le courageux fait ce que le lâche ne fait pas. Mais tous les deux ont peur. Les gens les plus courageux étaient littéralement morts de peur, mais ils ont agi. Celui qui n'a pas peur n'est pas courageux. Ensuite, pas de crainte, pas extrêmement important. Il s'adresse au peuple entier, leur dit de ne pas craindre, de ne pas être effrayé. On peut penser aux chrétiens persécutés. Qui ont-ils peur? Cette jeune fille qui a été battue par son père, mise en prison, avait-elle peur des hommes? Elle avait certainement beaucoup plus peur de Dieu, et c'est ça qui l'a fortifiée. Et donc, cette crainte de Dieu, si on craint Dieu, alors ensuite, et c'est là où la Bible est formidable, le Seigneur notre Dieu pourrait nous dire les choses, mais ne pas nous donner d'exemple. Il nous donne à chaque fois un exemple concret, et ensuite il va s'adresser à nous. Dans la deuxième partie, vous voyez, il nous parle. Donc il ne parle plus à l'ensemble du peuple, mais on a un peu l'impression qu'il nous parle à nous en particulier. Nous avons, il ne te délaisse point. Exactement. Il ne te délaissera point, c'est une promesse. Il ne t'abandonnera point. C'est un futur, c'est une promesse aussi. Donc si le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Et c'est même dit deux fois, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Donc on peut le croire, et c'est l'une des bases quand on s'inquiète, se dire que de toute façon, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il nous dit qu'il marche avec nous. Alors, pour marcher, bon, moi ça me fait penser à Jésus-Christ, parce que pour marcher, il faut avoir deux jambes, donc il faut être un homme. Donc, ça semble presque bête, mais... Et pourtant, si le Seigneur nous dit « Je marcherai avec toi », c'est qu'il le fera, que son Fils marchera avec nous. Alors, marcher avec nous, ça veut dire qu'il a ressenti tout ce qu'on a ressenti. Tout à l'heure, j'ai bu un verre d'eau parce que j'avais très soif. Notre Seigneur a eu soif aussi. Il a eu faim. Il a été fatigué. On peut supposer aussi que, et dans la mesure où il était charpentier pendant une quinzaine d'années, il a dû avoir les sacrées échardes dans les mains. Et il a pleuré aussi. Alors, s'il marche avec nous, s'il ne nous abandonne pas, s'il nous enjoint de ne pas avoir de crainte, à nous de lui faire confiance. Je précise une petite chose, que la crainte qu'éprouvaient les Hébreux était considérable, parce que le peuple hébreu était un tout petit peuple, entouré de peuples immenses, babyloniens, assyriens, moabites, madianites, j'en passe, sauf que tous ces peuples-là, Si vous cherchez à rentrer en contact avec un Madianite, vous allez avoir des gros problèmes parce qu'il n'y en a plus. Moabite pareil, Amalécite pareil. Bon, alors que, on est encore là. Donc, faisons-lui confiance, il est fidèle à ses promesses. Ensuite, donc, numéro 1, avoir du courage, parce qu'il est avec nous. Numéro 2, Ésaïe 41, verset 10. Alors, c'est un verset cher au frère Jocelyn, qui le cite fréquemment, mais que certains d'entre vous connaissent sans doute par cœur. Ésaïe 41, verset 10. Et ce verset nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10. On va le prendre à partir du verset 9. Donc il s'adresse toujours au peuple d'Israël. « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. » On a tous été appelés d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors d'abord, si j'ai appuyé sur le « je » est répété 7 fois. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui nous a choisis. Tu es mon serviteur, parce que je dis que tu l'es. Je te choisis. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Donc, bon, j'imagine que les jeunes, vous vous confiez donc à vos moments régulièrement, mais le Seigneur, lui, il est toujours là, disponible en 24/7. J'imagine que si j'appelle un frère à 3 ou à 2 ou 3 heures du matin, donc il va répondre, mais il y aura une certaine fatigue derrière. Le Seigneur, il est là. Il est toujours là pour entendre tout ce qu'on a à lui dire. Nous sommes ses serviteurs, mais il veut que ses serviteurs aient la joie dans leur cœur. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il prend l'initiative. Je te choisis. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Donc c'est bien lui qui dirige. C'est lui qui dirige et pas nous. Et donc, ne pas promener des regards inquiets, vous savez, les regards inquiets, c'est regarder, ah, il y a ça. Et toute inquiétude qui nous empêche de prier, toute inquiétude qui nous empêche de témoigner, toute inquiétude qui fait qu'on ne pense plus qu'à l'inquiétude, est à bannir. Et surtout, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ne pas se dire que c'est une petite inquiétude. Si une petite inquiétude nous empêche de prier, nous empêche de témoigner, c'est une grosse inquiétude. Et donc, toujours se souvenir que le Seigneur nous dit de ne pas être inquiet. Ne promène pas des regards inquiets. Donc, s'il dit ça, il reconnaît que l'inquiétude est un problème. Il reconnaît que, ben oui, on a tendance à promener des regards inquiets sur des choses qui sont sans doute des broutilles, oui, mais qui nous inquiètent. Donc, dans ces cas-là, se souvenir que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous choisit, qui nous a choisis, et c'est lui qui nous secourt. Remarquez à la fin, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, c'est bien sûr un terme guerrier, puisque donc on portait en principe l'épée ou donc une arme donc à la main droite. Mais qui est assis à la droite de Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc quand il nous dit « Je te soutiens de ma droite triomphante », ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Ça veut dire qu'on a un Seigneur qui est mort pour nous, ressuscité, et qui nous dit dans Matthieu 28 « Je suis avec toi tous les jours ». Donc si le Seigneur lui-même dit « Je suis avec toi tous les jours », ben c'est qu'il l'est. Donc pas de regard inquiet. Il est avec nous. Qu'on soit joyeux. Quand on est joyeux, on a tendance à oublier. C'est plus quand on est triste. Mais bon, je disais à quelqu'un qui était dans la peine récemment que quand on est dans la peine, vous savez, on ne veut pas trop que ses enfants le voient, donc on s'isole. Mais bon, c'est bien légitime. Mais si on est vraiment chrétien, on va entendre une petite voix qui va nous dire « Mais tu pleures pas tout seul, je pleure avec toi. » Notre Seigneur Jésus-Christ disait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il disait. S'il nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, ben c'est qu'il le fait. Ça paraît tellement évident, et pourtant on a tendance à l'oublier. Donc, s'il nous soutient de sa droite triomphante, c'est qu'il a triomphé. Alors, ça ne se voit pas, mais il a triomphé. Alors, on le verra quand il reviendra de façon vraiment évidente, mais si le Seigneur nous dit « Je te soutiens de ma droite triomphante », ça veut dire qu'il a triomphé, qu'il nous soutient. Donc, on n'a pas à promener de regard inquiet. Troisième point, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors, prendre un passage des psaumes, c'est toujours délicat parce que ça veut dire qu'on en prend un, donc on n'en prend pas un autre. Donc, j'ai pensé à trois passages. Si ça vous fait penser dans un autre passage, tant mieux. C'est bien sûr un choix, mais quand on choisit, donc tout choix implique un renoncement. Donc, je vous invite à passer au psaume 27, au verset 1. Et là, pas d'inquiétude parce que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il y a un vieux chant... Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Ça va peut-être rappeler certains souvenirs. C'était un chant de Noël, il me semble. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Alors, psaume 27, à partir du verset 1. Donc, psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alors, il est ma lumière, il est mon salut. Alors, bien sûr, c'est la lumière de Marlène, c'est la lumière de Roland, mais c'est aussi mon Seigneur à moi. Il est notre Seigneur à tous, mais aussi on a tous une relation personnelle avec lui. S'il est ma lumière et s'il est mon salut, la lumière dans ces pays-là a été très importante parce qu'on a perdu l'habitude de la nuit noire. Quand il fait nuit, il ne fait jamais vraiment nuit. Il y a toujours une lumière quelque part. Là, dans ces pays-là, c'était la nuit noire, noire, noire. Donc la lumière était très importante. Mais quelque part, le monde est un peu dans les ténèbres, donc on a besoin de la lumière. Mais il est ma lumière, il n'est pas une lumière, il est ma lumière, il est mon salut. Remarquez que si l'Éternel dit, si Dieu dit l'Éternel est mon salut, ça veut dire Dieu sauve. On est bien d'accord. Dieu sauve, c'est la traduction exacte de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc vous voyez que le Christ est partout, même si on ne nomme pas, même si il est là. Donc il est ma lumière, il est mon salut, et de qui aurais-je crainte? Si on a vraiment la crainte de Dieu, de qui pourrait-on vraiment avoir peur? Alors, vous me direz, ce n'est pas forcément toujours aussi évident. Non, mais la foi s'oppose à la crainte et la crainte s'oppose à la foi. En dehors de la crainte de Dieu, on est bien d'accord. D'un côté, il y a l'homme ancien, de l'autre côté, il y a l'homme nouveau. L'homme ancien est contre Dieu, l'homme nouveau est pour Dieu. Et petit à petit, c'est toute la sanctification, l'homme nouveau va prendre le pas sur l'homme ancien. Mais c'est tout le combat spirituel. Et l'homme nouveau ne peut prendre le pas sur l'homme ancien que si on reste attaché à la parole. Et si, dès qu'il y a une toute petite attaque, une toute petite inquiétude, il faut immédiatement aller vers la parole. Tout de suite. Et vous allez voir que ça nous est arrivé à tous certains soirs, on n'est pas bien, on a du mal à prier, il faut vraiment se faire violence. Mais dans ces cas-là, quand on commence à prier, on ne s'arrête plus. On veut lire, on se dit, bon allez, je vais quand même lire donc, un court psaume, et puis on en lit un deuxième, un troisième, un quatrième, parce que on a quelque part confié cette inquiétude, ce mal-être au Seigneur, et si on lui confie, il le prendra pour lui. N'oubliez pas, ma lumière et mon salut, L'Éternel est le soutien de ma vie. Si l'Éternel nous soutient, qui mieux que lui peut nous soutenir? Donc, pas d'inquiétude, parce que le Seigneur est le soutien de ma vie. Et c'est répété deux fois. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Toujours la poésie biblique. Hein? De qui aurais-je crainte? Au cas où on l'ait oublié, de qui aurais-je peur? Donc, de qui pourrait-on avoir peur? Alors, ensuite, toujours dans les psaumes, psaume 56. Alors là, le psaume 56 nous enjoint à nous confier dans la parole. C'est très bien de lire des psaumes 56. C'est très bien de lire des livres sur la Bible, mais il faut d'abord lire la Bible. C'est d'abord la Bible le plus important. Si quelqu'un veut, je sais pas, connaître une pièce de Shakespeare, c'est bien de lire des critiques, mais il faut d'abord la lire et la relire. Pour la Bible, c'est encore plus vrai. Pour connaître la Bible, on profitera beaucoup mieux des études si on lit la Bible. Alors, donc psaume 56, je vais lire les versets 3 et 6. Pardon, psaume 56, verset 4, excusez-moi. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. Bon, en fait, c'était versets 4 et 5, excusez-moi. D'accord ? Donc, se confier dans la parole, on a tous eu l'impression, et on a encore cette impression, que cette parole, elle a été écrite pour nous. Il y a pas mal d'années, on avait étudié, avec des frères d'une autre église, la première épître de Jean, mais ça paraît tellement actuel. Ça faisait penser à la société de consommation qui est la nôtre. Ça paraissait tellement actuel qu'on s'était dit, mais ça a été écrit à la fin du 1er siècle, et là, au 21e siècle, ça paraît tellement actuel. Et oui, c'est actuel. La Bible est actuelle. Et la Bible nous parle. Si quelqu'un se pointe en disant « Dieu m'a parlé », bon, on n'en est jamais sûr. Quand on ouvre la Bible, on en est certain. Et c'est pour ça qu'il faut la lire. Donc, c'est la parole qui guérit. Quand on lit certains versets, on a l'impression tout d'un coup que ce verset est fait pour nous, parce que ce verset vient au secours de l'inquiétude, au secours, quelque part, de notre manque de foi. Et si on prie pour avoir plus de foi, c'est très bien. Si on confie au Seigneur, c'est encore mieux. Et si en plus on lit la parole, tout ça mis ensemble, vous allez voir que certaines inquiétudes vont s'évanouir. Alors, dans les psaumes, vous trouverez que Dieu est un bouclier, une haute retraite, une protection, un refuge et bien d'autres. Et c'est répété plusieurs fois dans beaucoup de psaumes. Mais les gens, David, mais pas seulement, qui l'écrivent, y croient vraiment, parce qu'ils l'ont expérimenté. Les Assyriens, par exemple, étaient tellement cruels que l'archéologie nous rapporte des exemples de villages entiers qui se suicidaient collectivement, sachant qu'ils allaient tomber entre leurs mains. Ils se disaient, bon allez, on arrête là. Tellement ils étaient cruels. Je préfère ne pas vous dire ce qu'ils faisaient, tant c'était horrible, mais c'était vraiment un peuple particulièrement barbare, ça s'appelle comme ça. Et donc, si à cette époque-là, ils se confiaient dans le Seigneur, c'est que vraiment, ils y croyaient. Et s'ils y croyaient, c'est parce que c'était vrai. Le Seigneur venait vraiment à leur secours. Alors, j'aimerais partager aussi, avant de passer à l'exemple de Pierre, le fameux psaume 119 au verset 105, que vous connaissez tous. On va quand même aller le chercher. Psaume 119, verset 105, sur l'importance de la parole. Que le psaume 119, on le lit vite, et puis on a l'impression que, bon, il faut aller vite, 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 mais s'arrêter sur certaines parties, j'aime pas trop lire le psaume 119 d'un seul trait. Il y a 22 parties, prendre un peu son temps, quoi. Alors, psaume 119, verset 105, c'est ça ? « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, j'ai médité là-dessus et je me suis dit en fait qu'il y a deux lumières. Il y a une lumière qui éclaire ses pieds et une lumière qui est devant. Alors, une lumière donc à ses pieds, pourquoi ? C'est pour ne pas trébucher. Je vous rappelle que dans ces pays-là, mais on m'a dit qu'aux Antilles aussi, quand le mot « la nuit tombe », c'est vraiment la nuit qui tombe d'un seul coup et c'est tout d'un coup la nuit noire, 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 noire. Bon, c'est vrai qu'en Europe, la nuit, ça met une heure à tomber, hein, donc, et il ne fait jamais vraiment nuit noire. Mais une lumière, à une, pardon, une lampe à mes pieds, c'est pour ne pas trébucher. Donc c'est pour la vie de tous les jours, hein, pour ne pas tomber, pour regarder où on met les pieds. Mais une lumière sur mon sentier, d'abord ça veut dire qu'il y a un sentier. S'il y a un sentier, c'est qu'il y a une direction, c'est qu'il y a un chemin, c'est que c'est balisé. Et une lumière sur mon sentier, c'est justement, nous avons un but. C'est pas simplement pour la marche de tous les jours, mais c'est aussi, nous avons un but, on va quelque part. Un sentier, ça mène quelque part. Sinon, on n'appelle ça un sentier, on appelle ça une impasse. Et qui est la lumière du monde? Qui nous a dit « je suis le chemin » C'est Christ. Donc, quand on dit « une lumière sur mon sentier », on dit clairement « Jésus-Christ, tu es mon chemin, tu es ma lumière et tu m'éclaires ». Donc, quand on se dit ça, l'inquiétude, en principe, doit s'évanouir. Alors, c'est peut-être pas immédiat, mais à force de méditer, à force de... Et c'est pour ça qu'il faut lire et relire la Bible. Hein. Quelqu'un a dit une fois, la Bible n'est pas faite pour être lue, mais pour être relue. Relue et relue encore. Hein. Parce que Dieu va venir au secours de notre manque de foi, faire grandir notre foi et guérir nos inquiétudes. Alors maintenant, on va terminer sur l'exemple de Pierre. Et on va prendre 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et vous allez voir que alors Pierre, il est un peu inquiet. Hein. Il va vers le Seigneur, qui marche sur les eaux. Il s'enfonce, il a peur. Bon, il a peur, mais il fait appel au Seigneur. Il suit le Seigneur qui a été arrêté. Il le renie. Oui, mais il l'a suivi. Donc, Pierre est un personnage vraiment intéressant parce qu'il veut faire les choses, mais en même temps, il est quand même pris par l'inquiétude et l'angoisse assez vite. Alors, quand il écrit, bien sûr, cette épître, les moments d'errance sont terminés. Alors, et je vais prendre à partir du verset 6, vous allez comprendre pourquoi. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et le verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tout votre souci, car lui-même prend soin de vous. » Alors, on a tendance à passer au verset 7 directement. Et oubliez que avant et déchargez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Être humble, c'est pas dans l'air du temps. Bon, je vais pas citer de nom, mais il y a certains sportifs qui tiennent des propos absolument outranciers et tout le monde trouve ça très bien en disant ah oui, mais c'est un gagnant, blablabla. Donc celui qui vient avec humilité, on se méfie toujours, on se dit oui, mais c'est de la fausse modestie. Donc celui qui est vraiment humble, il n'est pas bien vu par le monde. Sauf que l'humilité pour un chrétien, c'est la base de tout. Si Dieu est tout-puissant, bah pas nous. Si Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Si Dieu est tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, bah c'est que nous, non. Donc être humble face à Dieu, c'est reconnaître qu'il est puissant, et le reconnaître tel qu'il est. Mais l'humilité ne va pas de soi. Alors, un simple petit exemple, quand on est perdu, un homme qui conduit, si on demande notre chemin, c'est que vraiment, on ne peut pas faire autrement. Ah, ça, c'est, quelque part, c'est un manque d'humilité. Bah, ma femme me dit, mais bon, pourquoi tu ne demandes pas? Attends. On va tourner, je préfère tourner pendant une demi-heure pour ne pas avoir à demander. C'est ridicule. Mais bon. Je ne suis sans doute pas le seul dans mon cas, mais bon, mais ça ne résout pas le problème quand même. Mais on n'a pas envie de reconnaître ses faiblesses. On n'a pas envie de reconnaître qu'on ne sait pas. On n'a pas envie de... et pourtant, c'est quand même la base de tout. Si on veut se décharger, et donc on va voir ce que ça veut dire, il faut d'abord reconnaître qu'on ne peut pas le faire soi-même et reconnaître cette humilité. Mais on ne reconnaît vraiment son humilité qu'avec le Seigneur. Et c'est là que ça démarre. Si on est humble avec le Seigneur, on pourra être humble dans le reste. Mais une humilité totale, seul Christ. Mais Christ était humble. Le Fils de Dieu a été cloué sur une croix, qui était une malédiction. D'accord ? Il a été pendu au bois. On lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines. On l'a battu comme un criminel. Donc, il ne nous demande pas simplement d'être humble. Il nous montre ce que c'est qu'être humble. Parce que lui, il a été. Jusqu'au bout. Alors, c'est la deuxième partie qui, réellement, si vous avez un verset à apprendre par cœur cette semaine, apprenez celui-là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, bon, je ne parle pas grec, mais je me suis amusé à avoir le sens des mots décharger et soucis. Alors, décharger, c'est un mot grec qui signifie un vêtement ou une charge qu'on enlève et qu'on met sur quelqu'un qui est capable de la porter. Parce que le vêtement nous pèse, parce que la charge nous pèse. Et donc, c'est pour ça que c'est déchargez-vous sur lui. Ce n'est pas simplement se décharger, mais c'est sur lui. Donc, déchargez-vous sur lui, ça veut dire une charge, une inquiétude qui nous embarrasse, qui nous angoisse, qui nous stresse, pour prendre un terme à la mode. Si c'est une charge, c'est qu'on ne peut pas la porter. Donc, donnons-la au Seigneur qui, lui, peut la porter. Il le peut. Mais il peut la porter à partir du moment où on reconnaît que c'est le Seigneur, donc où on s'humilie devant lui, et où on lui confie cette charge. Ensuite, quelle charge ? Alors, justement, le mot « souci », ça veut dire tout type d'angoisse. Donc, tous vos soucis, pas les grands, enfin, pas seulement les grands, mais les petits aussi. Et on a souvent tendance à dire « mais bon, ça c'est un petit souci, je vais quand même pas confier ça au Seigneur ». Mais il faut tout lui confier. À partir du moment où c'est quelque chose qui nous soucie, il faut lui confier. En regardant Porte Ouverte tout à l'heure, je me suis dit « mais il y a quand même certains de nos soucis qui paraissent... bien dérisoire, vraiment bien dérisoire. » Et pourtant, le Seigneur nous dit quand même de décharger sur lui tous nos soucis. Donc le Seigneur reconnaît les grands soucis et les petits soucis. Donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est quel que soit votre type d'inquiétude, confiez cette inquiétude au Seigneur tout de suite, parce qu'il peut, il veut, il a le pouvoir de la prendre sur lui. Alors, ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas être inquiet du jour au lendemain. Mais vous allez voir que petit à petit, la sanctification, c'est de moins en moins d'inquiétude. Et si une fois quelqu'un vous dit bah, « c'est bizarre, mais t'es moins inquiet », qu'on puisse dire « gloire à Dieu », et justement, ça sera peut-être l'occasion de témoigner. Mais si tout le monde s'inquiète, et pas vous, c'est un bon témoignage. Je répète, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas un autre. C'est lui-même qui prend soin de nous. Donc, imaginez-vous un peu, nous sommes des poussières sur une poussière de l'univers, et le Dieu Tout-Puissant prend soin de nous. Le Dieu Tout-Puissant prend soin de nous, il nous connaît. Dans Matthieu, il y a un passage qui dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Alors que très franchement, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, bon... Il y en a qui en ont plus ou moins, mais bon, bon très très franchement, c'est pas important. Et pourtant, ça l'est pour lui. Donc si le nombre de cheveux qu'on a sur la tête est important pour le Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas important ? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et en conclusion, ceux qui parlent anglais, allez voir le cantique « Quel ami fidèle et tendre ». Parce que le cantique original a des paroles un tout petit peu différentes, et répète comme un leitmotiv, apporte-le au Seigneur dans la prière. Le cantique original est un cantique sur la prière et qui dit qu'on doit tout apporter au Seigneur dans la prière. Donc, ceux qui parlent anglais, les jeunes, ça vous fera un exercice, allez voir quel ami fidèle et tendre. What a friend we have in Jesus. Mais si vous mettez quel ami fidèle et tendre en anglais, vous allez le trouver sur Google assez facilement. Et lisez les paroles. Vous allez voir qu'il répète tout le temps, apporte-le au Seigneur dans la prière. C'est le message que... le Seigneur a mis sur mon cœur, ça m'a fait du bien. Soyez bénis. Amen.